par grand froid. Donc encore plus méritant. Sera consacré à un clou de l'année, si je puis dire, qui est la question du féminin. La dernière fois, je n'avais pas tout à fait terminé quelques considérations à propos du masculin, et je les ai intégrées à la leçon d'aujourd'hui. Attendez-vous aussi à quelques répliques, puisque nous avions fait une séance un peu préparatoire et un peu de dialogue, où avait été introduit quelques éléments. Ces éléments, je vais les retrouver et les remettre en ordre dans le propos d'aujourd'hui. Propos plus modeste que jamais, car si Freud est mort en se demandant que veut la femme, vous vous doutez bien que c'est Pierre Séguier qui va apporter les réponses et les solutions. Je vais peut-être bénéficier de son expérience et de ses textes, mais pas que. Et je crois qu'à la fin de ces deux heures, le mystère restera entier, quoique, comme on a pu me le dire, si Freud ne savait pas ce que c'était qu'une femme, les femmes savent ce que c'est qu'une femme. Mais elles ne savent pas qu'elles le savent. Et il ne faut pas compter sur les femmes psychanalystes pour nous apprendre des choses sur le féminin, parce que les femmes psychanalystes, je n'inclus pas Françoise Dolto, mais celle d'avant, celle de la génération d'avant, Hélène Deutsch, Anna Freud, la fille de Freud, Mélanie Klein, ont absolument déliré la condition féminine, faisant des analogies entre n'importe quoi et n'importe quoi. Hélène Deutsch aussi. Donc, la question du féminin a gardé une certaine virginité. Elle reste insue. Alors, quand quelque chose est insue, qu'est-ce qu'on fait? On se met devant sa feuille de papier en essayant de trouver des choses, mais on peut aussi s'adresser à un domaine, je l'avais suggéré déjà, s'adresser à un domaine dont la vocation est précisément de porter sur l'insu. Quel est le domaine qui porte sur l'insu? Vous avez toutes la réponse. C'est la littérature. La littérature ne nous dit pas ce qu'on ne sait pas. Elle n'a pas de vertu révélatrice, apophantique, comme on dit avec un mot savant. Mais la littérature touche à l'insu. Elle nous présente des cas, des scénarios, des sujets d'étonnement, et pour son principe, je persiste à dire que, effectivement, elle touche à ce qui est ignorant. On ne fait pas la littérature sur la fabrication d'une voiture, sur les sources du Nil qu'on connaît. On ne fait pas de littérature sur le recrutement dans une entreprise. Mais on a fait de la littérature sur les sources du Nil à l'époque où c'était un sud. Au 19e siècle, il doit y avoir un Jules Verne qui porte là-dessus. Et naturellement, on continue dans les domaines où, on ne sait pas, tels que le crime, par exemple, et ça nous donne la littérature policière, les films de corps, enfin, des choses comme ça, le crime, le féminin, l'enfance, c'est plus difficile. C'est plus difficile. On ne peut pas tellement faire un film sur les nouveau-nés. Un film sur les parents du nouveau-né, oui. Ça donne, par exemple, trois hommes et un couffin, mais un film sur les nouveau-nés, non. Non. Donc il y a, même de l'insu, rebelle à la littérature. Alors, concernant les femmes, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, on peut trouver des choses que personnellement j'ai pas cherchées. J'ai pas cherché dans Marguerite de Chenard, Marguerite de Race, je n'ai pas lu Simone de Beauvoir, mais lors de l'avant-dernière séance, on avait mentionné des types, des cas de femmes que je vais à nouveau recenser pour l'intérêt qu'ils ont de nous montrer dans quelle rose des vents, si je puis dire, sont pris les êtres de sexe féminin. Alors, des cas classiques, je dirais que la salle m'avait aidé à trouver, ou soufflé, carrément. Des cas classiques, Pénélope, la femme qui attend son mari avec une fidélité inébranlable et quelques rues, c'est une surdité totale aux avances de ce qu'on appelle dans les traductions des prétendants, les petits nobles du royaume du Lys qui disent ça fait 10 ans qu'il n'est pas revenu, il faut à présent s'intéresser à nous. Pénélope, un petit peu simple. Il y a une Pénélope un peu plus âgée que Pénélope qui s'appelle Baucis, d'un couple Philémon et Baucis. Baucis vieillit avec Philémon dans un couple osmotique. Identificatoire proche, de telle sorte que les dieux en sont émus. Et donc ils vont transformer, c'est une légende bien sûr, ils vont transformer ces deux vieilles personnes en deux arbres, en prenant bien soin que les racines se mélangent de telle sorte qu'on ne puisse plus reconnaître qui est qui. Alors c'est peut-être l'autre nom de Ulysse et Pénélope plus tard, on leur souhaite d'avoir vieilli comme ça. Gardons aussi sans mémoire, parce que tous les désespoirs qu'on peut collectionner sur la condition des couples risquent d'en prendre un coup, et de savoir que ce type existe peut faire du bien. Une femme dont on n'avait pas fait mention, c'est la femme qui sait. Je fais allusion au personnage de la Pythie de Delphes. La Pythie, sur son trépied, énervé par des vapeurs de je ne sais quelle substance, parle, fait des prophéties. Des prophéties qu'on ne déchiffre pas, qu'on a du mal à déchiffrer. Elle sait, mais comme je le suggérais tout à l'heure, elle ne fait pas savoir qu'elle sait, et elle cache en même temps qu'elle montre, comme la cendre avec le feu. La pitié que l'on vient consulter, est-elle une femme d'exception ou toutes les femmes sont-elles des pitié? Je vois bien la femme en général comme quelqu'un qui sait, personnellement. Pendant que les hommes idiots s'illusionnent sur des tas de voies de garage, de fantasmes. Mais il y a aussi des cas moins positifs. Alors, on avait mentionné Carmen ou sa jumelle Manon Lescaut. Carmen est un personnage épouvantable, puisque elle veut être aimée, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi parce que je cesserai de t'aimer. Et Carmen refusera jusqu'à la mort de tenir sa promesse. Ta promesse, tu la tiendras. Ah, si je t'aime, Carmen, tu la tiendras. Dit Don José, et elle la tiendra. Il suffit que passe un bel homme, prestigieux, glorieux, un toréador victorieux, pour que Carmen oublie tout. Elle revendique, bien entendu, sa liberté de ne pas constituer un couple qu'elle avait fait effort pour constituer. Donc c'est une femme qui est à l'initiative de tout, jusqu'à la fin. Et, alors évidemment, une femme libre qu'on peut représenter comme telle. Et qui ne s'embarrasse pas de brider son désir et qui laissera le comble du désir à devenir comme la mort sous les coups de Don José furieux à la fin de la pièce. Carmen, type de femme difficile, un pas en avant, un pas en arrière, rien sur quoi compter. Vous aviez parlé, vous, fort justement, de Madame Bovary, la bourgeoise étriquée qui s'ennuie et qui veut aimer, qui va être victime d'un support recommandable qui s'appelle Rodolphe, qui souffrira de vouloir aimer, qui souffrira de vouloir vivre. Combien de Bovary dans nos proximités aussi, c'est-à-dire les femmes qui n'arrivent même pas à commencer comme Carmen. Je ferai une petite place à deux autres. Iseux de Tristan me paraît intéressant parce que en simplifiant considérablement l'histoire, Iseult est la femme qui accepte l'incartade de l'homme et qui accepte que l'homme revienne. Au contraire, dans le féminin, il y a ce fonctionnement tel que quand c'est fini, c'est fini. Et alors là, ça n'est pas fini. qu'ils, eux, acceptent un deuxième acte, une deuxième période, peut-être plus belle. Donc, la leçon serait, du côté des femmes, peut-être que ça existe que du côté des hommes, que le couple, c'est le couple qui a surmonté l'adultère. Le couple un peu vrai couple, ou le couple un peu solide, c'est celui qui a surmonté l'adultère. C'est intéressant. C'est au moins intéressant de savoir que l'une des pointes de ce que j'ai appelé tout à l'heure « rose des vents » est occupée par le personnage « Disse ». Et puis, il y a la fameuse « Médée ». La fameuse « Médée », traitée par Euripide, par Sénèque et par Corneille, avec des variantes, Médée a un passé de tueuse quand elle rencontre Jason. Ils s'aiment, ils sont sans royal, ils peuvent espérer constituer une dynastie, ils ont des enfants d'eux. Et mais les filles du soleil, c'est une magicienne, et Jason va entrer dans le désamour, va la laisser, et Médée refusera d'être mère puisqu'elle n'est plus femme, et assassinera ses enfants en punition pour Jason, qui se préparait à les prendre chez lui avec sa nouvelle femme. Elle assassinera ses enfants, elle ne sera pas mère si elle n'est pas femme. Réaction terrible de femme amoureuse, et réaction à rebours de ce qu'on va pouvoir décrire, au contraire, pour bon nombre de dessins féminins qui renoncent à la féminité pour la maternité et qui s'en trouvent bien. Médée, c'est l'exemple, donc, la monstration du contraire. Et évidemment, elle touchera Jason. Ça, c'est la seule façon de le toucher. Elle le touche bien. Quelle vengeance! Quel jusqu'au boutisme dans la vengeance! Vous voyez, vous avez dans ces portraits, à plusieurs reprises, ce jusqu'au boutisme, qui moi m'intéresse énormément parce que ce sont des personnages qui ne cèdent pas. Carmen ne cède pas, Pénélope ne cède pas. Ce sont des personnages qui vont jusqu'au bout. Alors, jusqu'au bout de quoi? De leur désir, de leur soumission leur soumission à des signifiants. Je ne sais pas, mais on peut établir une opposition entre l'homme qui transige. Et la femme qui ne transige pas. Un homme, quand ça trompe sa femme, c'est prêt à accepter toutes sortes de situations de compromis. Femme. Donc, clarté et jusqu'au boutisme. Voilà. je ne mentionne pas, mais il faudrait leur faire un sort en les incluant dans un amour global de l'humanité. Je ne mentionne pas les putains qui ont construit un rapport aux hommes sur une autre base que celle-ci. Là aussi, vraiment, on ne sait pas bien ce que c'est. On ne sait pas bien ce qui se passe dans ce phénomène. Alors, après cette énumération, qui n'est évidemment pas exhaustive, mais vous pourrez exercer votre sagacité pour trouver d'autres cas. Oui, monsieur.
Mais vous ne prenez pas toutes les femmes actuelles, les femmes de Simone Veil, Marie Curie, Roger Tardot, toutes les personnes qui sont les femmes les plus connues aujourd'hui, puis les écrivains.
Alors, pour la salle qui n'entend pas, monsieur. J'objecte que je pourrais prendre des exemples de femmes positives et travailleuses, des divers héros de la politique ou de la pensée ou des sciences. J'ai entendu Marie Curie et Simone Veil.
Mais Brigitte Bardot.
Ou Brigitte Bardot.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas quel titre, Brigitte Bardot, mais.
Non, mais dans le féminin. Quand vous parlez du féminin. Littérature.
Oui.
Oui, mais parce que vous
reveniez à la. J'ai cherché dans les littératures, je n'ai pas cherché dans le rayon.
Les fées et les sorcières.
Pardon ?
Les fées et les sorcières, vous les rattachez au pitié.
Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi je les rattache. Je les rattache à. Oui, un jeu sur la clairvoyance, mais aussi comment dirais-je, des proies faciles pour une église qui cherchait à annexer des propriétés. Parce que l'église devenait propriétaire des champs et des maisons des sorcières qui étaient brûlées. Ça a fait beaucoup de domaines. Qui ont augmenté le domaine de l'Église. En général, les sorcières, je m'excuse, j'ai pas lu le livre de Michelet, mais en général, les sorcières, elles étaient accusées de sorcellerie, alors qu'elles ne jouaient pas elles-mêmes la carte de la sorcellerie. Donc,
c'est très féminin,
parce que
déjà les hommes,
qui sont des livres. Oui. En tout cas, voyez quels sont tous les possibles d'une jeune fille, d'une jeune femme. Vers quoi va-t-elle s'orienter? On a recensé une dizaine de cas de figure, mais on peut les multiplier par 2, 3, 4, si on fait intervenir le temps. Car le temps définit des types de désirs féminins. Vouloir être encore enfant, encore jeune, encore mère, ne plus vouloir être enfant, ne plus vouloir être jeune, ça doit être assez rare, mais bon. ne plus vouloir être maître, ou ne pas du tout vouloir être maître. Le temps modifie les choses, ainsi que la logique, parce que on ne peut pas exclure que des désirs ou des volontés, selon votre féminine, se construisent comme à la fois femme-enfant et femme accomplie, travailleuse à l'extérieur, à la fois mère et travailleuse à l'extérieur, à la fois jeune et ayant dépassé la maternité, vous voyez. Tous ces cas font autant de mélanges, autant de cocktails, si je puis dire. Voilà. J'en conclurai comme lors de notre séance de préparation, l'absolue différence entre les hommes et les femmes, puisque les femmes sont de types différents, les hommes sont souvent d'un même type, d'un même désir. Donc les virtualités féminines, c'est dans l'infini, tandis que les virtualités masculines sont assez pauvres. Voilà qui nous prépare à entendre et à comprendre des choses. Je vais maintenant, dans un deuxième temps, je vais m'adresser à une autre source qui permet éventuellement la compréhension, qui n'est plus la littérature, mais qui est l'histoire. Là, il me faut préparer mon propos par une considération sur les temps de la vie tels que vous les trouvez chez Hannah Arendt dans le livre Conditions de l'homme moderne, ou tels que vous les trouvez tout simplement dans un dictionnaire de grec. Je serais partisan de dire que seuls les Grecs ont été lucides sur les temps de la vie. De quelle façon? Ils ont distingué trois temps. Le temps de travail, en grec ergon, ou poiesis, fabrication, ou praxis, action. Le temps de travail, premier temps. Le temps de travail, c'est un temps qu'on ne peut pas éluder, puisque c'est le temps pendant lequel nous chassons la mort. On me fait bien rire les auteurs qui font l'éloge de la paresse, ou l'éloge de ces choses-là. Comment voulez-vous ne pas consacrer une partie de son temps à la lutte contre la mort? On le fait tellement bien qu'on oublie qu'on chasse la mort avec le travail. Demandez à quelqu'un qui prend sa voiture le matin pour se rendre au bureau, qu'est-ce que tu fais? Il ne vous répondra pas, je chasse la mort. Et pourtant, c'est bien de ça qu'il s'agit. Le deuxième temps est le temps de repos que nous impose Marâtre Nature, assez inégalement du reste, parce que nous n'avons pas les mêmes besoins de sommeil et nous n'avons pas les mêmes besoins de récupération, et nous sommes très inégaux par rapport à cela. Très inégaux. J'en vis, pour ma part, ceux qui se contentent de 3 heures de sommeil, il y en a 3 ou 4 heures, il y avait Napoléon, il y avait, j'ai encore cité Lacan, mais au titre de la quantité de sommeil dont il avait besoin, il passait ses nuits à travailler et il se reposait, il dormait 3 heures. Alors les Grecs connaissent bien ce deuxième temps. Hypnos, qui a donné hypnotiser le sommeil, mais à côté d'hypnos, il y a la récupération, et parente d'hypnos, il y a la récupération qui s'appelle Pausis, qui a donné la pause, ou Anapausis, qui signifie la récupération. Et alors, ce qu'il y a de remarquable dans leur cas, c'est qu'ils ont isolé un troisième temps que nous sommes infoutus de reconnaître, nous, et qui s'appelle Skolem. Skolem, S-C-H-O-L-L, en transcription. Qu'est-ce que c'est que la scolaire ? C'est le temps libre. Le temps libre, oui, le temps où on peut faire des choses. Aberration de l'évolution des cultures, le temps libre est ressenti dans la postmodernité comme un temps de loisir. Loisir, amusement, et même un peu plus. Vous savez bien comment ils font nos jeunes pendant le temps libre. Il s'agit, ouvrez les guillemets, de s'éclater, de prendre son pied. Expression qui, traduite en concept, peut vouloir dire substituer la jouissance au plaisir. Car la jouissance offre et donne plus que le plaisir. Le plaisir, c'est manger, la jouissance, c'est trop manger. Le plaisir, c'est faire une balade en montagne, la jouissance, c'est faire l'ascension de la montagne dont il a été question récemment dans l'actualité, sur laquelle j'ai pisté tant que je pouvais. Voilà. Mais on a su jusque très tard que le temps libre, la scolaire, vient de deux choses l'une, ou bien allait se perdre, ou bien allait être utilisé pour l'essentiel. Si je traduis scolaire par temps pour être ou temps pour l'essentiel, je crois être au plus proche de ce que voulait dire ce beau terme grec, dont vous comprenez évidemment pourquoi il a pu donner école en passant par, en transitant par le latin, parce que quand on a du temps, le mieux qu'on a à faire, c'est d'apprendre. Voilà. Je pense en disant ça aux enfants de la vallée de Névache. La vallée de Névache qui débouche sur Briançon. J'y ai régulièrement coupé du reste du monde, un peu moins dans le Kérard, mais beaucoup quand même. Je vois à vos têtes qui opinent que vous connaissez la vallée de Névache, et ça me fait très plaisir. Et bien dans la vallée de Névache, où ce qui est des hivers invraisemblables qui duraient des mois et des mois, et bien qu'est-ce qu'on faisait pendant cette scolaire? On apprenait à lire, à écrire et compter, on apprenait même le latin, on se mettait sur un chapeau dans une plume qu'il y avait de domaine d'études, lire, écrire, compter, latin, éventuellement donc quatre plumes. Et on descendait vers Aix-en-Provence pour devenir précepteur des familles bourgeoises de la région. La scolaire, ici, alimentait la préparation. On peut l'utiliser pour toute autre chose. On peut utiliser la scolaire pour devenir spécialiste d'un truc. Ça peut s'appeler la passion. Et puis, il y a quelques chanceux, dont l'ergone et la scolaire se confondent. J'en fais partie. J'en fais partie parce que quand on aime lire des livres de philo et qu'on est prof de philo, l'État vous paye pendant 40 ans pour que vous fassiez votre passion. Ça peut être la même chose, bien entendu, avec la musique, le dessin, les arts. Ou pourquoi pas le palais du facteur cheval, non, cheval était facteur, donc c'était pas son ergon de faire son palais, mais vous voyez ce que je veux dire. La passion, c'est pas à entendre comme un sentiment qui vous prend, c'est à entendre comme le fait pour un sujet de se donner à un objet. Un sujet se donne à un objet pour le faire être, pour le constituer, pour le... voilà. Ah, écoutez, puisque j'ai 2 heures avec vous, je vous raconte une histoire. Vous permettez ? J'avais, il y a une vingtaine d'années, une élève, absolument ingrate, physiquement et dans son comportement, elle était très isolée, les autres s'occupaient pas d'elle. Elle était fille d'instituteur qui l'avait peut-être un peu cassé en voulant trop bien faire. Voilà. Et elle avait une passion. Elle avait une passion qui était la Joconde. La Joconde. Alors elle apprenait tout sur la Joconde, elle savait tout sur le tableau, elle collectionnait toutes les œuvres qui représentent la Joconde, les fausses Jocondes, les caricatures, les Jocondes à moustache, les Jocondes. Bon. Et puis, les assiettes, les bouchons de bouteilles. Voilà. Elle avait cette passion. Et un jour, en ouvrant la télé, j'ai vu cette jeune fille, une jeune femme, qui était interviewée pour un petit musée de la Joconde qu'elle avait constitué et fait advenir. Voilà un exemple de passion qui sauve dans un cas comme ça, de passion qui n'est pas passive, sauf si vous entendez comme une passivité le fait de se donner à un objet. C'est la définition hegelienne de la passion. Et ben, ceux qui m'intéressent, tout le reste étant de la psychologie. La psychologie. Voilà. J'ai parlé d'Anna Arendt, elle sous-entend la tripartition des temps quand elle distingue. Dans son livre que je vous conseille de lire sans restriction, qui s'appelle Conditions de l'homme moderne. Et je vais lire, vous y aurez du plaisir. Alors elle distingue le travail, la praxis et le. L'ergonome, enfin la poésie, la fabrication, l'œuvre. Le travail, l'action et l'œuvre. C'est dit en français, mais ça a des correspondants en grec. Travail, vous comprenez. Praxis, pour elle, c'est l'engagement politique, parce qu'évidemment, un citoyen est mutilé s'il passe à côté de l'engagement politique. Et l'œuvre, c'est l'œuvre. Ça, forcément, l'œuvre, c'est pas forcément une grande œuvre, c'est l'œuvre comme on voit au début du film qui est con avec un type qui fait des cathédrales en allumettes. On peut glousser sur ce type de petite œuvre, mais c'est une œuvre. Bon, on ne sera peut-être pas reconnu, mais qui ne restera peut-être pas dans l'histoire, mais c'est quand même une œuvre par rapport à toutes les vies sans œuvre. Voilà. Alors pourquoi ce détour par le vocabulaire de la vie et du temps de la vie chez les Grecs ? Eh bien tout simplement parce que si l'on demande à l'histoire de nous instruire sur les variations du féminin, alors là, la réponse est très claire. Il y a des femmes, depuis 1960, il n'y a de femmes qu'à partir de la postmodernité. Si nous datons la postmodernité de 1960. Pourquoi ? Parce que Les femmes ont du temps depuis cette époque-là. Avant, les femmes n'avaient pas de temps. Les femmes sont... Alors, je ne sais pas si je dois dire, comme la dernière fois, le produit, l'artefact, la conséquence, choisissez, mais de la machine à laver, de la contraception. Les femmes ont les machines à laver, parce que la vaisselle, c'est pas mal aussi. Voilà. Une femme du 19e siècle a des enfants jusqu'à ce que. Voilà, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus, elle les élève et elle meurt. Les femmes d'avant, c'était à peu près comme ça. Et si vous avez envie de trouver des exceptions à ce régime-là, vous en trouverez. Des Madame de Staël, des Fati, la femme de Pythagore, les Camille Claudel, et bon, vous en trouvez, mais on ne pense pas les choses à partir des exceptions, on les pense à partir du plus grand cas. Et le cas ordinaire, c'est terrible ce que je vous dis là, c'est terrible, c'est bon, on ne va pas se mettre le flanc dans une attitude de repentance, de toute façon, on parle de rien, mais il faut bien reconnaître que tout était en place pour que le philosophe Kierkegaard donne de la femme une définition épouvantable. La femme, c'est l'être, dit-il, pour autre chose. La femme est l'être pour autre chose. L'homme est l'être pour soi, terminologie de Hegel, et la femme est l'être pour autre chose. Ce qui veut bien dire qu'en 1830-40, on n'est pas encore sorti de cette péjoration millénaire de la condition féminine. Les exceptions sont nombreuses. Hein. J'ai lu par exemple beau texte de l'historien Paul Venn qui décrit les femmes à l'époque de l'Empire. Elles faisaient ce qu'elles voulaient. Elles ruinaient les hommes, elles collectionnaient les aventures, elles s'autorisaient tout et n'importe quoi. Pourquoi les imaginer au foyer Bon, alors il y a des exceptions, mais ça n'empêche pas que la règle a été que la femme a peine le temps d'être dans sa splendeur, bascule dans la maternité, et puis c'est à peu près fini, avec des espérances de vie de 45 ou 50 ans, c'est à peu près fini. Toutes les femmes, ah voici un beau vers de Victor Hugo qui se trouve dans les contemplations, toutes les femmes, dit-il, sont teintes du sang des roses. C'est magnifique. Que c'est joli. Toutes les femmes sont teintes du sang des roses. Les roses se fanent, ce déclin de la rose est assimilé à une mort violente avec du sang, ce sang caractérisera toutes les femmes connaîtront ce destin de rose, j'en dis pas plus parce que si j'en dis plus c'est des banalités, c'est mignon d'en voir si la rose ou des machins comme ça, c'est des banalités pour dire la joliesse, la splendeur, la magnificence, d'une jeune femme, de la jeune fille et de la jeune femme. Ensuite, c'est fini. Voilà. Bon, alors, quitte à être sacrifiée, qu'elle le soit, sacrifiée en à fond, et c'est la raison pour laquelle la pensée, la philosophie a joyeusement l'Église a joyeusement compté sur les femmes pour se propager, mais en même temps a joyeusement dénié le caractère essentiel aux femmes, et notamment l'âme, pendant un certain nombre de siècles. Vous savez qu'il y a eu des débats théologiques sur l'âme des femmes, et donc des prononcés qui se sont terminés vers le 19e siècle, des prononcés pour accepter que les femmes aient une âme. Mais si elles ont gagné avec l'histoire une âme, contre ce qui se passait avant, elles n'ont pas gagné pour autant la reconnaissance d'un rôle essentiel dans la procréation. Souvenez-vous, je vous avais parlé de ça. Des origines, peut-on dire, jusqu'à 1830, la femme n'a pas de rôle essentiel dans la procréation et la gestation des assimilés à une nourriture, nourriture de ce petit embryon qui vient exclusivement du masculin. Vous verrez ça dans Aristote, vous verrez ça dans Hippocrate, vous verrez ça. Et c'est aggravé, avais-je dit déjà, si mes souvenirs sont exacts, par la reconnaissance du microscope, puisque le microscope permet de voir des spermatozoïdes qui semblent être des petits animaux humains en réduction, qui vont prospérer dans une matrice, mais à laquelle la femme n'apportera rien. N'a rien d'autre que, rien d'essentiel, rien d'autre que la gestation. Voilà, c'est pas rien comme assignation. Tout ce temps que nous sommes dans cette salle, c'était que nous ayons à peu près le même âge, nous avons connu la bascule entre la femme qui n'avait pas de temps et la femme qui avait du temps. Qui avait du temps pour être. Ceci dit, en gros, évidemment, et avec toutes les exceptions qu'on connaît. Voilà, donc, un certain point de départ. Ces choses tout à fait nouvelles et tout à fait récentes de se demander, non, puisque une femme, que je veux. Je vais maintenant, dans un deuxième moment, réfléchir, tant qu'elle le fait, en tout cas, sur la façon dont une femme est sexuée, car, vous allez voir, il n'y a pas qu'un niveau de sexuation. On peut en distinguer plusieurs. J'en ai distingué six. Le sixième va me mettre fort en difficulté par rapport à vous, parce que je l'ai touché à des choses océantes. Et pour les autres, vous en aurez un de plus que si vous lisez le livre de Madame Badinter qui s'appelle XY, qui est une réflexion sur le féminin. Il y a un autre livre de Badinter qui s'appelle Masculin. Et donc, voici une vague de réflexion sur ce qui détermine une femme comme moi. Vous avez indéniablement un niveau anatomique. La femme diffère de l'homme par une courbe, par une hauteur de voix, par une taille statistique, par le caractère inapparent et rentré de son sexe, par sa vision, la force physique, encore que nos ancêtres étaient extrêmement fortes, nos ancêtres cro-magnons étaient très fortes, je crois que j'ai indiqué ça une dernière fois. Les femmes diffèrent des hommes aussi par la vision. Les femmes ont une vision latérale que les hommes n'ont pas. Ce qui fait que quand une femme croise un homme, l'homme va avoir un regard dont vous connaissez les phases. Il va commencer par regarder à une certaine hauteur, ensuite en dessous, il va se tourner et il va continuer à voir comment se détermine l'anatomie féminine. Moyennant quoi, par sa seule vision, il est pas très loin d'un début de commencement d'un délicatesse. Tandis que vous, mesdames, vous avez cette vision latérale qui vous permet de parfaitement capter quel est le jumonceau que vous allez croiser sans que votre regard ait besoin de dévier de devant. Ce qui est merveilleux, parce que ça vous innocente, ça vous permet d'être discrète. On parlera de ces messieurs en les traitant de porcs, et vous ne serez pas touchés grâce à cette curiosité de la vision. Et les hommes prennent leur revanche la nuit. Vous savez que la vision nocturne de l'âme n'est pas aussi bonne que la vision nocturne des messieurs. Ce qui fait qu'il y a dans notre pays 30 millions de couples ou 20 millions de couples qui, quand ils conduisent de nuit, assistent à des scènes de ménage. Madame a peur parce qu'elle ne voit pas. Le monsieur lui dit, laisse-moi tranquille, ou je te dépose à la prochaine aire d'auto. Madame ne voit moins bien que monsieur. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a d'autres données anatomiques de séparation entre les hommes et les femmes. On pourrait faire intervenir la hauteur de voix. La hauteur de voix qui a été beaucoup pour l'éviction des femmes de la vie politique. Parce que dans les assemblées, et bien jusqu'à l'âge du micro, c'est-à-dire de nouveau presque jusqu'à l'âge de la postmodernité, dans les assemblées, les hommes pouvaient se faire entendre et les femmes ne pouvaient pas, parce qu'elles ont des voix moins sonores. Je reprends ce que je dis, parce que il arrive même souvent que les femmes aient des voix plus sonores quand elles chantent que les garçons, que les messieurs. C'est la raison pour laquelle les grands chanteurs, ou plus exactement, les grandes chanteuses sélectionnent particulièrement bien leur partenaire pour pouvoir chanter plus fort que eux. Madame Barbara Hendricks Vous voyez qui c'est ? Toute mignonne. Une adorable petite personne à plus de 95 décibels en sortie de voix. La limite de 90 décibels étant ce que l'oreille peut supporter. Alors j'aurais pas la cruauté de te demander combien M. Pavarotti est décibels en sortie de voix, mais je peux vous dire que c'est une voix faible. C'est une voix très soutillée, cela, c'est pas la question, mais c'est pas une voix, c'est un sonore. C'est pas une voix sonore, là. La cantatrice la plus époustouflante que j'ai entendue en matière de volume sonore est une cantatrice qui s'appelait Rita Gore. Et dans une représentation du Trouvère, elle couvrait l'orchestre, on n'entendait personne d'autre, on n'entendait que sa voix, elle couvrait l'orchestre, et les pauvres messieurs étaient là, on les voyait ouvrir la poule, il a fermé, et on entendait rigoureusement. Oui, d'accord. Alors, un petit notule. Qui débouche peut-être sur un commentaire intéressant. Cette anatomie féminine n'est pas l'anatomie du bébé. C'est l'anatomie à partir de l'adolescence, à partir de la puberté. Les femmes ne changent pas de voix par la puberté, mais on très peu. Ces courbes nouvelles arrivent, ces organes nouveaux, la poitrine se forme. la fillette, le nourrisson féminin n'a pas encore tout cela. Il est très proche du nourrisson masculin et c'est la raison pour laquelle vous pouvez comprendre que la seule différence qu'on fasse jouer pour distinguer un homme et une femme à la naissance, c'est celle de la présence du pénis. Présence du pénis, pénis présent. Quand je dis cela, j'indique, il faut le souligner pour que ce soit bien fait, j'indique que le pénis n'est jamais un organe sans être aussi un symbole. N'est jamais un organe sans être aussi un signifiant. Signifiant de la différence sexuelle. Et, tout à l'heure, vous verrez apparaître ces thèses si insupportables aux féministes qui nous disent que hommes et femmes, que hommes et femmes ne sont différents que sur la base d'un seul pivot, qui est la présence du pénis ou du phallus. Le nourrisson l'a ou ne l'a pas. C'est la base. C'est comme ça. C'est sans doute, alors ça est pour l'accorder, c'est sans doute imaginaire et superficiel. Et on pourrait célébrer l'anatomie du sexe féminin et dire que c'est un signe de reconnaissance, sauf que ça ne marche pas comme ça. J'y reviendrai tout à l'heure. À peine un être humain est-il au monde qu'il subit la règle symbolique qui va asséner que, pour être un homme, il faut un organe, et si on ne l'a pas, on est une femme. Si vous voulez, entendez bien ce que je raconte, parce que ça n'est évidemment pas un propos misogyne, et ça n'est évidemment pas un propos sexiste. Je suis tout simplement en train de dire que la distinction symbolique entre l'homme et la femme a besoin d'un appui, et cet appui, il est imaginaire, c'est une image, et c'est un contresens. C'est un contresens. Les femmes ne sont pas castrées. Mais l'imaginaire va imposer l'idée qu'elles le sont. Ensuite, les hommes et les femmes, et je crois que c'est une considération intéressante, les hommes et les femmes ne vont pas souffrir de la même façon. Les hommes ne vont connaître en matière de castration qu'une angoisse relativement brève dans leur vie, qu'une angoisse qui survient quand ils voudraient que le papa soit pas là. Je voudrais que mon père n'existe pas, mais mon père va bien voir que je voudrais qu'il n'existe pas, donc il risque de me punir. Et quelle punition va-t-il trouver, mon père, sinon de monter ce par quoi j'appartiens à la masculinité. Donc, angoisse de castration. L'angoisse de castration est un moteur de l'évolution édipienne qui va déboucher sur une solution qui est à la fois gravissime et universelle, qui est l'identification au papa, mais aussi l'identification à ce personnage menaçant, qu'on appelle en psychanalyse l'identification à l'agresseur. L'identification à l'agresseur est un syntagme absolument terrible. Parce que cela signifie qu'il suffit que vous adressiez quelqu'un pour qu'il se rallie à vous et qu'il se reconnaisse en vous. Voilà. Il y en a qui appellent ça aussi syndrome de Stockholm. Oui, le syndrome de Stockholm est un cas particulier de l'identification à l'agresseur. Que quand il y a eu un film de c'est Max ou Marcel Ophuls qui s'appelait Le chagrin et la pitié, et qu'on a vu que les résistants étaient une ultra-minorité et les collaborateurs une majorité, collaborateurs à peu près ou actifs, il n'y avait rien d'autre que la marque de la psychologie humaine et la marque de l'identification à l'agresseur. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible que les hommes entrent dans la masculinité par un schéma psychologique de soumission, pour ne pas dire de lâcheté. C'est quand même épouvantable. Les femmes ne connaissent pas l'identification à l'agresseur. Et lisez la littérature sur le Mais quand vous verrez, vous ne pouvez pas écrire le livre de Trigolévi si c'est un homme, en le mettant au féminin. Vous ne pouvez pas écrire si c'est une femme. Parce que les femmes ne sont pas fonctionnées comme ça. Les femmes, elles cachent un rasoir dans leur chignon et elles le sortent au moment de l'exécution où elles égorgent le. On a cet exemple dans les camps. Voilà. Les hommes, ils regardent par terre et celui qui va être pendu leur dit regardez-moi bien, je suis terre. Alors, évidemment, après, les dispositions psychologiques de la base sont telles qu'on comprend parfaitement que le masculin cherche à attester son propre courage, cherche à faire preuve de courage, à s'éduquer dans le courage, et bien entendu on y parvient. Mais le courage n'est pas premier. Le courage est une construction réactive et, si vous voulez, utiliser le terme de Freud, une formation réactionnelle. Ça me paraît quand même très intéressant. Alors, ça part de l'idée, n'est-ce pas, que les hommes et les femmes ne souffrent pas de la même façon. Et la souffrance psychologique masculine est circonscrite dans le temps. Mais quand même, évidemment, la logique de la castration restera là toujours. C'est-à-dire que toujours les hommes refuseront qu'on leur prenne quelque chose. La structuration par rapport à la propriété privée et par le danger que l'autre vienne vous prendre aboutit à tout ce qu'on connaît, la sacralisation de la propriété privée, et puis, c'est très inquiétant, les guerres préventives. Les guerres préventives, l'ennemi, c'est celui qui, non pas nous prend, mais pourrait nous prendre. Regardez tous ces immigrés de la France accueillent, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux, ils sont différents de nous, ils apportent autre chose, ils sont travailleurs. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les gens construire leur vote uniquement sur le critère du refus d'immigrer, y compris, ça a été étudié du côté de Strasbourg, y compris dans des villages où il n'y a aucun immigré. Et on n'apprend pas dans la postmodernité, on n'apprend pas et on n'apprend plus à perdre. Ce qui est en rapport direct avec la castration. Toutes les autres époques ont appris à perdre. Je vais accoucher, mais j'ai une chance sur trois qu'ils perdent la vie. J'ai des ennemis et je sais qu'ils peuvent prendre. Vous voyez les sagesses extrêmement orientales ou orientales et extrêmement orientales. Ce sont des apprentissages à la perte. qu'est-ce que je dois définir le moins possible, comme ça on ne pourra pas comprendre. Toute la philosophie d'Épicure est construite sur cette idée de renoncer à tout ce qu'on pourrait me prendre pour me concentrer sur ce qu'on ne peut pas me prendre. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre? On ne peut pas prendre ma faculté de subsister avec très peu de choses, finalement, surtout si j'ai quelques copains. Voilà. En un mot, la philosophie d'Épicure. Oui, la castration est le fond sur lequel, eh bien, se sont construits soit historiquement des sagesses de renoncement, qui allaient souvent trop loin du reste, soit aujourd'hui, alors c'est pas des sagesses, c'est des folies de proposition d'objet. Car figurez-vous, le problème avec le phallus, le problème avec la castration, le phallus, je n'ai pas d'autre formule à trouver, c'est qu'il symbolise. Il y a des choses qui sont des déplacements et des symboles du phallus. À peu près, je ne sais pas, je ne peux pas dire toute la publicité est fondée là-dessus, mais beaucoup de la publicité est fondée là-dessus. Il y a un mec avec une bagnole. Et alors il arrive devant une nana, il y a une voiture. Je suis touché puisqu'il y a une voiture. En tout cas, je vais être favorable à cette hypothèse. Alors si c'est une voiture, c'est n'importe quoi. Vous savez bien, vous pouvez interdire ce discours et cette pratique publicitaire. Qui consiste à nous suggérer que le phallus c'est autre chose que le phallus, je le ferai parce que on aimerait bien qu'on reste centré sur le phallus. Mais non, le phallus symbolise avec la mobilette, la voiture, le costume, et même la purée mousseline. Ah, il y a le roquefort, il y a le ginibiteur mémotonique. Enfin, la purée mousseline, c'est plus compliqué. La vous n'avez pas cru vous faire pire avec la purée mousseline, mais si. Et dans la pub de la purée mousseline, vous savez, elle est très contente, la dame, elle chante et elle dit quand je fais de la purée mousseline, et résultat, vous apercevez quelque chose. Une famille heureuse, il y a là 6-7 gosses, et elle arrive en tenant la purée mousseline, et elle chante sur l'air de la mélodie du bonheur. Voilà, la mélodie du bonheur, c'est le bruit de la purée mousseline. Alors, vous allez me dire, monsieur Cellier, on commence à s'habituer à vous, vous êtes bien, mais vous ne pouvez pas nous dire que la purée mousseline, c'est le phallus. Mais si! Et ça se démontre comment? Ben, en faisant remarquer que la purée mousseline, c'est l'affointant d'une famille. C'est ce qui complémentarise l'homme et la femme. Bon, alors c'est la femme qui l'a, là, mais c'est pas important. Voilà. On peut définir la postmodernité comme l'âge où les objets nous sont proposés comme phallus. Je répète, on peut définir la postmodernité, parce que c'est quand même une sanction cette année, comme l'âge où les objets nous sont proposés comme phallus. comme un signe de masculinité, comme proposition de complémentarité, comme etc. Vous vous souvenez de la pub pour la 206 Peugeot? On appelait ça l'Indien. Vous vous souvenez? Il y avait un air de musique absolument extraordinaire. Bon, alors qu'est-ce qu'on voyait? On voyait un hindou trouver une vieille caisse pourrie et la déformer. Alors il fait asseoir un éléphant sur le capot, on rit. On le voit avec des lunettes de soudeur soudé son truc. Il se précipite contre un mur pour, je suppose, raccourcir le côté arrière de la 206. Et puis, voilà, il a terminé. Alors, il a terminé un truc qui est tout cabossé, qui est innommable. Enfin, il a terminé un truc qui ressemble à la 206 Peugeot dans ses grandes lignes. Et alors le voilà qui s'installe avec deux, trois copains dans la voiture et qui va passer devant un groupe de filles. Et alors ils font des mimiques absolument extraordinaires. Le mec, il n'a pas besoin de la 206 toujours, c'est un fort beau garçon. Ça suffit. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Non, mais par rapport à l'organisation. Oui, bon, je suis en train de vous dire que il y a une situation anatomique et que cette situation anatomique est lue à partir d'un signifiant particulier qui va devenir le phallus objet de castration ou de angoisse de castration. Je parlerai tout à l'heure de ce qui se passe chez la petite fille. Il faut continuer ce propos. Il y a cinq autres niveaux. Il y a cinq autres niveaux de sexuation. Le deuxième niveau dont je vais parler, ça va durer une minute, c'est la sexuation génétique. Nous n'avons pas les mêmes gènes, vous, mesdames, et nous, messieurs, sauf exception. Car il existe des êtres qui ont des corps de femmes et des génétiques masculines. Il s'est produit un accident embryologique, un accident épigénétique, on dit, qui a fait que les petites pièces logées dans la moelle épinière, dans la colonne vertébrale, qu'on appelle le testicule embryonnaire, et qui est l'objet d'une migration pendant la gestation du fœtus. Il y a des cas où les testicules embryonnaires ne se décrochent pas, et donc vous vous trouvez devant un superbe corps de femme, et c'est un homme. Stérile, mais bon, on sait ça depuis que la génétique a fait des progrès. On disait il y a une quarantaine d'années que la chanteuse, enfin je ne sais pas si je peux dire la chanteuse, Sheila, était un homme génétique. Et, bon, on a beaucoup entendu dire ça. Je l'ai tenu d'un professeur de sciences naturelles dans une troisième sexuation est hormonale endocrinologique, donc sexuation endocrinologique. Alors ça n'est pas tout à fait un détail parce que Vous savez qu'il y a des hormones masculines et féminines, et donc vous avez des femmes hormonalement très masculines, avec des taux de testostérone élevés, comme chez les hommes. Et du reste, il y a des hommes avec des taux de testostérone assez bas. Ce qui va suffire à donner des personnages féminins éventuellement agressifs, impulsifs, enfin qui ne s'en laissent pas compter et qui se mettent en colère, et inversement des personnages masculins qui sont plus édifiants, qui laissent passer, qui accommodent, qui jouent dans les situations de contradiction des rôles de par excitation. Vous voyez, ça n'est pas tout à fait innocent parce que ça risque de produire des crises d'identité, des crises identitaires qui suivent si moi, qui devrais être un mec, je ne suis pas hormonalement au top de mes réactions de mec. Naturellement, ça c'est de la caricature, mais c'est à ce niveau que ça fonctionne. Oui, madame.
Est-ce que je comprends que vous dites qu'une femme qui se met en colère a un problème hormonal?
Peut-être qu'il faut entendre une femme qui aurait une propension à se mettre un peu systématiquement et un peu rapidement en colère aurait, oui, un déséquilibre hormonal. Oui. Oui. Maintenant, je ne sais pas dans quel lieu vit cette dame qui n'existe pas et dont nous parlons comme un peu d'un fantôme, mais si cette dame est dans une situation où elle subit de son environnement des agressions, bon, y a des limites à la soumission. Il y a des limites à la soumission, mais la patience, l'attente et peut-être, oui, un peu de soumission sont télécommandés par des questions hormonales. Voyez, renseignez-vous là-dessus, regardez 3-4 articles, vous verrez. Vient la sexuation physiologique. La sexuation physiologique, bon, pour un homme, elle est binaire, il est soit enfant, soit voilà. Pour une femme, elle n'est pas binaire, parce qu'il y a déjà 3 périodes minimum qui sont l'enfance, l'apparition de la fécondité et la fin de la fécondité. Très variablement reçue par les dames. Moi, j'ai entendu des « je ne m'en console pas », comme j'ai entendu des « oh, que je suis contente maintenant que ». Et puis, en plus, il faut se méfier, parce que quand on dit quelque chose, c'est souvent qu'on sent le contraire. Donc, ouais. Donc, la sexuation physiologique commande que une fillette soit un enfant, éventuellement garçon manqué, comme on dit souvent, puis un petit être marqué par l'apparition des possibles de fécondité, cette fille, puis une jeune femme qui met en acte ses possibilités de fécondité, puis une mère, puis, et là, la question se pose, parce que l'allongement de la vie humaine fait que, pour la première fois, et ceci est aussi coextensif à la postmodernité, pour la première fois, les mères peuvent redevenir des femmes. redevenir des femmes avec puissance de séduction, conduite, conduite amoureuse, soin du corps qui permet ainsi ça. Voilà. Je pense que les femmes du 19e, du 18e, du 17e n'avaient pas, sauf élevées de la société, n'avaient pas la possibilité de redevenir femme après avoir été mère et avant d'être une femme ménopausée avec tout le vécu que ça implique, tous les drames que ça peut impliquer au niveau du vécu. Entre ces diverses phases, eh bien, vous imaginez, regrets, attentes, drames, contentement, etc. Là aussi, le temps joue pour définir le désir féminin de multiples façons. La postmodernité n'est pas du genre à dire aimer votre prise d'âge, aimer vos rides, aimer la perte de relative de votre séduction. Et donc, vous savez sur quoi s'aligne-vous, des hectares de papier, journaux féminins qui nous disent comment conserver, garder ceci ou cela. Mais ça, c'est pas la peine de le dire. Vous n'avez pas besoin d'un prof de philo pour ça. Par contre, vous avez peut-être besoin d'un prof de philo pour bien mettre le doigt sur la cinquième situation, qui elle, alors, oulala, ça va être compliqué. Qui est une situation identificatoire. Sexuation identificatoire. Monsieur Lacan a écrit, a consacré toute une année à tenir un séminaire sur l'identification. C'est du reste au cours de ce séminaire qu'un certain nombre de concepts majeurs de sa pensée sont apparus. L'identification. Une femme est un être identifié à quoi ? Aujourd'hui, commencez par l'homme. Un homme est un être identifié à son papa. Bon, ça c'est simple, c'est facile, c'est bon. Cherchons pas. Une femme est un être identifié. Et voilà tout le problème. À une mère et pas à une femme. Alors vous direz, elle est femme. Oui, d'accord, oui, mais elle n'est pas femme sur le mode de jouer sa féminité en permanence pendant tous les mois de son emploi du temps. Elle est mère avec son tablier de cuisine et sa mousseline. Non, je pense que quelque chose comme ça, c'est certainement pas. Ni misogyne, ni rien du tout, c'est de dire que les mères sont des mères et que ça les occupe à être mères et qu'elles sont privées d'un temps pour être autre chose que mères, je crois que c'est très en faveur, au contraire, de la reconnaissance de la merveilleuse condition des femmes, et pas, ne faites pas dire ce que je dis. Donc, pour les hommes, ça se passe bien. Pour les femmes, ça se passe mal. Parce que, je répète, il faut bien comprendre Le jeu de l'identification au sortir de l'équipe universitaire, tout ça, il se fait pas. Il se fait sur la maternité. Les petites filles se mettent des ballons sur le ventre, se mettent des coussins, se promènent avec les chaussures de leur mère en ayant un ventre postiche, et on nourrit des petits bébés, on a des poupées pour être maman. Alors, c'est pas du tout une invention de Pierre Sellier, mais je le développerai un peu plus tard, puisque c'est un pivot de la compréhension des femmes aujourd'hui, ça. Si vous voulez que je le dise plus nettement, avec le risque de caricature que ça implique, une mère n'ouvre pas la féminité. Un père ouvre à la masculinité, une mère n'ouvre pas à la féminité, mais à la maternité. Que l'on peut concevoir comme exclusif et antithétique. Vous comprenez ? On ne peut pas être mère et femme en même temps, en tout cas avant 1960. On peut être une femme active, un écrivain, une aviatrice, un truc comme ça, en confiant ses enfants à quelqu'un d'autre. Oui, on a vu ça, mais il faut simplifier d'abord pour pouvoir complexifier. Alors quand je simplifie, n'en veillez pas. Voilà, l'identification masculine est simple, l'identification féminine ne l'est pas. Un garçon sera toujours hétérosexuel à la base. Une fille sera toujours homosexuelle à la base. Un garçon n'aura pas à se déloger de cette hétérosexualité primitive, celle de son allaitement, celle de ses premières années. Une fille aura à accomplir un itinéraire qui va la déloger de cette antéro-homosexualité. Pour les filles, la démarche d'identification va se faire sur la base d'un processus psychologique assez complexe lorsque le phallus et l'enfant seront construit, inconsciemment construit bien sûr, comme équivalent. J'ai pas de phallus, donc j'aurai un enfant. Voilà. Et j'ai pas de phallus, j'aurai un enfant. Le premier fantasme sera peut-être que ce soit un enfant du père. Et ensuite, quand il sera avéré que c'est impossible, ce sera un enfant de quelqu'un d'autre. Ce qui met la petite fille comme le petit garçon, la fillette comme le garçonnet, en position d'attente. L'homme est l'être qui attend. Ou l'enfant est l'être qui attend. Qui attend, et l'attente, pas tout de suite, difficile. Si l'on prend les choses sous un tour statistique, la facilité ou difficulté respective des identifications de la fillette et du garçonnet a pour effet que chez les messieurs, les phénomènes d'impuissance sont extrêmement rares. Parce que j'ai grosso modo en place. Et chez les dames, les phénomènes de frigidité sont extrêmement fréquents. Pourquoi ? Alors, c'est pas un cours à plaisanter facile. Pourquoi y a-t-il une proportion de frigidité qui, pas qu'on fallait 20 ans, on parlait de 50%, hein, avec les divers cas de figure de la frigidité. Pourquoi y a-t-il beaucoup de frigidité et peu d'impuissance masculine ? Ben, tout simplement parce que le parcours des identifications est plus compliqué tout simplement chez la fillette que le pire. Le petit garçon va être vite dans les célébrations phalliques, les vélomoteurs, les bagnoles, la musculature. La musculature est une inondation de la totalité du corps par la phallicité. C'est un peu ridicule chez nos bodybuilders. Il serait peut-être mieux de se concentrer ou de se rattacher au phallus initial, mais bon, ça vient encore phallus, biceps phallus, triceps phallus, etc. Chez les filles, c'est plus compliqué. Ça passe par l'enfant, ça passe par donc une équivalence enfant-phallus. Cette équivalence enfant-phallus se fait pas toujours. La mère n'ouvre pas toujours assez au phénomène de séduction, j'y reviendrai plus tard. Et donc, on doit concevoir cette sexuation identificatoire comme, je répète, facile chez l'un et difficile chez l'autre. Alors ici, une parenthèse. Bon, est-ce que je dis les choses gentiment ou pas ?
Gentiment d'abord.
Bon. Certain bruit venu des États-Unis voudrait nous faire entendre que notre masculinité ou notre féminité sont le résultat d'un choix. C'est la théorie du genre. C'est la théorie du genre de Madame Butler et d'un certain nombre d'autres personnes qui travaillent sur la théorie du genre. Je ne veux pas les caricaturer, c'est des gens qui ont des raisonnements et des démarches, mais Madame Butler persiste à dire qu'il y a un choix de sa sexuation. C'est-à-dire que, bon, les hommes 20% des cas choisissent le masculin, dans 20% des cas ils choisissent le féminin, et puis les femmes, pour quelle proportion avancée, et il y aurait aussi un choix. Alors c'est quand même très difficile d'appeler choix, terme qui est quand même connoté par le libéralisme, l'American Way of Life et ces choses-là. C'est quand même un peu difficile d'appeler choix tout ce qui se passe de façon absolument inconsciente. Entre 3 et 6 ans, chez un petit garçon et chez une petite fille. Moi, je serais quand même d'avis de dire, sans que ça préjuge du bonheur futur des uns et des autres, je suis quand même d'avis de dire que il y a des accidents identificatoires des accidents d'identification, des inversions d'identification, qui ne sont pas forcément heureuses, qui sont plus fréquents pour les dames que pour les messieurs. Alors, j'en dis pas plus parce que la question de l'homosexualité est une question sur laquelle je ne suis pas très bon. Je crois que par prudence, il faut dire qu'il n'y a pas une homosexualité, mais qu'il y en a une vingtaine, très différente, très différente. Chez les hommes, et chez les femmes. Parce que ça n'est pas tout à fait la même chose que de vouloir être identifié à la façon dont la mère aimait et à la façon dont la mère était aimée. Vous voyez, vous avez déjà un critère actif-passif, qu'est-ce que la mère pouvait donner, qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas donner, puis même chose pour le père. Enfin, ce qui donne des résultats très 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 hétéroclite. Il n'y a pas un modèle d'homosexualité ni masculine ni féminine. Mais on voit bien, en tout cas en terrain Fredo, etc., on voit bien que ce sont des accidents d'identification qui peuvent advenir quand un des deux parents est insupportable, quand il est quand il se passe ce qui se passe dans beaucoup de couples, malheureusement, quand un des parents n'aime pas l'autre, ou l'autre n'aime pas l'un. Alors, comment s'identifier à quelqu'un qui n'aime pas? Alors qu'on voit bien que c'est le soubassement de la vie d'être capable d'aimer son conjoint ou pas. Alors, si ça ne se passe pas, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche? Je ne réponds pas. Mais simplement, c'était ma cinquième situation identificatoire. Bon, c'est la seule qui soit importante. Les autres, anatomiques, physiologiques, etc., ça ne compte plus. Vous pouvez avoir les hormones dérivées quand vous voulez, et à partir du moment où les identifications sont faites, C'est la seule qui est importante. Et donc, on voit bien que être homme ou femme sont des questions où interviennent l'imaginaire, le symbolique, mais certainement pas la nature directement. Nous ne sommes pas des êtres naturels. Aucun d'entre nous n'est un être naturel. Et la nature, ça fait longtemps qu'elle est écartée, étouffée, abandonnée, etc. Ce qui se passe, ce qui nous fait être ce que nous sommes, c'est jouer ensuite. Alors, une sixième identification, et j'ai du mal à dire ce que je vais dire. Car je voudrais évoquer ce paramètre épouvantable par lequel éventuellement la nature va se rabattre sur le jeu des identifications. Cette donnée épouvantable qui est la beauté. La beauté. La beauté. Je crois que la beauté d'un homme compte relativement peu. Je pense que vous aurez... dans vos entourages respectifs toutes sortes d'exemples comme j'ai moi-même dans mon entourage de nanas splendides qui se sont mise avec des hommes disgracieux, la réciproque étant déjà moins établie. la beauté. Si quelqu'un parmi vous vit 500 ans, je prends le pari que dans 500 ans, les choses n'oseront pas évoluer. Peut-être qu'on ne fabriquera que des gens beaux dans 500 ans. Peut-être que la question sera résolue comme ça. Mais je pense que tous les racismes, c'est-à-dire tous les sentiments de proximité ou de, sans contraire, de longitude, seront tombés dans 500 ans par rapport à ce qu'on a eu appelé à une certaine époque les races, et qui n'existent évidemment pas. Je pense que on fera des progrès dans le traitement de l'étranger. Je consacrerai sans doute une séance à ce sujet. Des progrès par rapport à l'étranger, qui sont déjà accomplis, parce que dans certains pays, on peut accomplir dans ces démarches personnelles, mais l'opposition entre le pot et le lait n'est pas près de tomber. L'attirance ou l'absence d'attirance, l'intérêt ou l'absence d'intérêt, le zapping pour un physique quelconque, et au contraire la bétification pour un beau physique, font que le féminin est éventuellement de plein fouet frappé par la question de l'attitude physique. Bon, en tant que prof, j'ai tellement vu ça. Je pense du reste que les très belles femmes souffrent énormément de ne jamais être aimées pour elles-mêmes, mais pour leur beauté. Donc il faut nuancer. Mais dans des conditions de beauté statistique habituelle, enfin, sans en rajouter, quelle facilité ont les belles personnes à tous égards, à tout moment, enfin, c'est un problème de recrutement dans la fonction publique. C'est un problème de possibilité d'avoir un métier. À l'époque où il y avait l'école normale d'instituteurs, c'est toujours vu des filles très jolies réussir très bien les grands oraux de cet examen et se retrouver institutrice, qui est très bien, tu vois, de recruter des jolies institutrices. Mais où est le mérite là-dedans? Où sont les efforts et où est l'essence pédagogique? C'est pas du tout petit que d'être beau face au travail des élèves. Des fois, si, sans doute. Voilà. Le beau. Le beau du corps féminin, ou le non-beau du corps féminin, inhibe ou frappe ou invalide la féminité. Et c'est terrible, c'est pour ça que j'ai du mal à le dire, parce que d'habitude, ce sont des questions qu'on ne soulève pas. Hein. On voit apparaître des speakerines charmantes, des madames météo délicieuses, des présentatrices radieuses qui sont autant de canons de beauté, et puis on trouve ça tout à fait normal. Et les autres. Alors il vaut mieux pas en parler, parce que c'est quand même extrêmement délicat que de reconnaître que sur des apparences physiques, des gens vont être joués à un peu plus de malheur, ou beaucoup de malheur, ou énormément de malheur. Oui, pardon.
Oui.
question, c'est aussi un jeu.
J'en suis pas sûr. Il y a des élévations sociales, vous le savez bien, qui se font par la beauté, et il y a des stagnations sociales d'une génération et d'autres qui se font par la beauté. Et ce qui me fait peur, c'est que c'est pas modifiable, c'est inamendable. Vous pouvez toujours éduquer les enfants en leur disant, si t'es un petit copain dans la classe qui est disgracieux, sois gentil avec lui. Ils ne le feront pas, ils seront ronds autour de lui en disant qu'il est moche ou que ceci ou que cela. C'est une cruauté absolue, les enfants. Vous n'arrivez pas à animer ce truc-là. Et ensuite, ça continue naturellement. Il y aurait donc une sexuation, enfin non, pas une sexuation de fortune ou une sexuation de hasard, mais une frappe du hasard anatomique du visage sur la sexuation. Je suis en train de faire. J'espère me tromper. Et vous avez remarqué quand on parle, peu de ça. Comment c'est tu, c'est censuré. Parce que ça risquerait de faire apparaître tout comme injuste, comme inacceptable. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Monsieur Georges Brassens, après Monsieur Beaux-Arts, a nuancé ces choses-là dans l'ère du catalogue du donjon de Beaux-Arts. Le valet chante la façon dont Jean séduit tout le monde, et il dit, ça y est, ça me manque, ça ne me revient pas, il dit, si elle est laide, c'est plus la suite, vous regarderez. Donc Jean, c'est lui les laides. C'est lui aussi les laides. Dixit son valet. Et ça doit être ça. Il séduit tout le monde. Il tire dans tout ce qui bouge, soit rendu vulgairement. Donc, voilà un homme que la laideur n'arrête pas, à moins qu'il faille comprendre l'enfant comme quelqu'un qui va jouir de séduire, mais qui s'arrêtera après. Alors, séduire une laide, oui, c'est si facile, et après, il va la renvoyer avec sa brutalité et sa goujaterie, en disant seulement qu'il fait preuve. Pour sa femme légitime qui s'appelle Donnelvire dans Le Donjon de Beaux-Arts. Et Georges Brassens a fait une variation là-dessus que je ne pense pas parce que c'est hypocrite, une chanson qui dit cette femme est trop vilaine, il me la faut. Bon. Mensonge, c'est pas vrai. En vrai, nos artistes, quand ils sont entre eux, et ils paraissent le cœur sur la main, honnête, charmant, gentil, profond, et tout et tout. Et puis vous voyez bien, avec Madame Alité, comment ça se termine. La même chose, c'est un verge mensonger, ça. Cette femme est trop vilaine, il me la faut. Je n'ai jamais croisé cela. J'ai dans mon entourage croisé. Des demoiselles pas jolies qui en devenaient folles et qui en devenaient folles tout simplement, et c'est comme ça que ça se passe. Si c'est rare, heureusement, d'être trop disgracieux, mais c'est rare. Par contre, ce qui n'est pas rare, c'est que l'âge transforme la grâce initiale. Et comment supporter à ce moment-là que l'âge transforme la grâce initiale? Si vous regardez Casque d'or, Simone Signoret dans Casque d'or, oh là là, mais quelle souffrance ça aurait été. Donc vous voyez, la femme, comment faire avec sa féminité quand l'âge démolit la féminité? Franchement, il y a des contre-exemples, il y a des visages qui demeurent éternellement charmants, ou délicieux, ou attrayants, ou bon. Mais le problème mérite d'être posé. Alors j'arrive à la fin où j'ai pris mon temps de cet itinéraire sur les premières parties de ce que je voulais dire sur le féminin. Il reste un morceau et les concepts qui vont être en question dans ce morceau, qui, hélas, ressortissent à la psychanalyse, ces concepts sont tellement importants que je n'ai pas envie de les squeezer et de n'en pas parler. Donc, ça fera le début de la prochaine séance. Mais ne partez pas parce que j'ai plusieurs questions à vous poser. D'abord, combien avons-nous eu de séances jusqu'à présent? Je ne les ai pas comptées, 7 ou 8. Bon, vous savez quoi?
Il y a eu le 27, il y a eu le 8 pour 11. Non, le 11, le 27-09, le 11-10-2. Le 8 août, le 22 août, le 6 août, le 20 août, le 17-01, le 31-01 et le 28-02, ça fait 9.
Donc il nous reste 3 séances, et bien je vais tâcher de.
Non,
il
en
reste. Bon.
Il reste 14.03, 26.03, 25.04 et 9.04.
Oh, tant mieux, hein, je demande que ça. Bon, attendez, soyez, ayez la gentillesse d'attendre 5 minutes parce que j'ai une autre question importante à vous poser. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer l'année prochaine. C'est-à-dire, je ne sais pas si je reviens, si je ne reviens pas, comment je reviens, je ne sais pas comment ça va se passer avec l'institution dont je relève. Mais le carnet, le livret de l'année prochaine étant en cours d'élaboration, il faut que j'ai une idée de ce que je ferai éventuellement l'an prochain, même si par hasard je ne le fais pas. Et alors, j'ai une idée de faire pour l'année prochaine 12, s'il y a 12 séances qui seront autant de fiches de lecture sur des textes importants. Alors, un genre donc complètement différent de cette année. Des lectures de textes, alors naturellement pas, ce ne sera pas la métaphysique d'Aristote, mais ce seront des textes de 12, 15, un peu plus pages, qui permettront d'entrer dans la philosophie, de connaître les auteurs, de changer de style ou de rubrique. Alors, j'aimerais, et je vous reconsulterai la prochaine fois, j'aimerais que vous disiez si ça vous agrée ou si vous préférez la continuation d'une formule comme celle-ci, thématique, donc, conceptuelle et thématique, vous me direz, et subsidiairement, vous me direz, car c'est important, vous me direz si on fait des fiches de lecture, si vous préférez, on va dire des choses faciles ou des choses un peu moins faciles. Alors l'avantage des choses faciles, c'est que tout le monde pourra s'y reporter, lire le texte et acquérir vraiment un bout de culture au cours de l'année, parce que tout ce texte, les années précédentes, je doute que vous ayez lu tout ce texte dans l'année, donc ce sera sympa à cet égard. Mais est-ce que vous voulez vous attaquer à des choses un peu plus ardues ou pas? Vous me direz, vous réfléchirez, on ne peut pas lâcher. L'avantage de s'attaquer à des textes difficiles, c'est que c'est des choses dont vous n'entendrez jamais parler, sinon. Les textes faciles, vous en entendrez parler. Si, par exemple, je fais comme texte facile une lecture du Prince de Machiavel, bon, lire le Prince, vous trouvez ça partout. Si je fais la préface de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, alors là, il n'y a pas grand monde qui s'attaque à ces choses-là, vous voyez. Il faut que j'ai votre avis et éventuellement votre accord. Voilà, merci beaucoup. Merci.